Meilleurs vœux à toi et à chacun. Et nous commençons par une devinette. Voilà, qui suis-je? Pas moi. Alors, je suis une réalité tout à fait ordinaire. Si ordinaire qu'elle est le plus souvent invisible. Je change régulièrement d'identité, de caractère. Mais on me reconnaît tout de suite. Quand j'apparais au départ, tout le monde me célèbre. Et en fait, tout ce qui se passe dans le monde se réfère à moi. Je suis avec vous tous les jours, depuis le début jusqu'à la fin de votre histoire. Qui suis-je? Essayez encore. La gourmandise, non, c'est pas ça. La vie, Jésus. C'est bien, vous êtes bien formaté, je peux dire. Je suis avec vous tous les jours, sur chaque page du calendrier ou de l'agenda. Ça, je ne l'ai pas dit. Non, vous l'avez devant vos yeux. Je suis la date. Okay. Cette année, je suis 2025 et je vous souhaite la bienvenue chez moi. Bonne année. Bonne santé, surtout la santé, comme on dit. Et que vous viviez en France, en Chine, au Zimbabwe, aux États-Unis, au pôle Nord. Dans chacun des gestes que vous produirez jusqu'au 31 décembre, vous ferez explicitement ou implicitement référence à moi. Ne serait-ce que quand vous rédigerez un chèque, vous mettrez la date, quand vous enverrez un SMS, quand vous enverrez un mail, ou bien même quand vous prévoirez le nombre de bougies sur le gâteau d'anniversaire, consciemment ou non, en le voyant ou non, je laisserai ma trace. 2025, et je précise 2025, après Jésus-Christ. Et c'est un phénomène finalement assez un peu étonnant, parce que nous vivons dans une société occidentale qui est laïcisée, une des sociétés qui s'attendait au moins à une époque à la disparition de la religion, à la mort de Dieu. Une société dont l'évolution a été telle que plusieurs de nos contemporains aujourd'hui n'ont plus du tout l'idée que Noël renvoie à du religieux. Ou bien, deux exemples parmi tant d'autres, ou bien quand on parle de méditation aujourd'hui, eh bien on pense tout de suite à des attitudes de développement personnel, ou bien à l'Orient, ou bien enfin, une espèce de recueillement intérieur silencieux. Et qu'on en vient à être choqué si ces drôles de gens que sont les chrétiens emploient ce mot pour désigner tout autre chose. Et on ne soupçonne même pas, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup ne soupçonnent même pas que c'est quand même autrement, enfin c'est quand même comme ça, que le mot a été utilisé pendant des siècles. On a oublié. Et pourtant, et en même temps, cette société-là, jusqu'au 31 décembre, ne cessera pas de faire référence à Jésus-Christ. Et ça continuera l'an prochain avec une autre date. Alors, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, c'est, d'une certaine façon. Et en même temps, je voudrais juste dire quand même que ça ne va pas tout à fait de soi. Pendant la Révolution française, les foules esclaves se sont mises debout, et on a fait table rase du passé. En 1792, la Convention nationale a institué le calendrier républicain, et ce n'était plus le 22 septembre 1792 après Jésus-Christ, mais c'était maintenant le premier vendémiaire de l'an 1. Vendémiaire, Nivose, etc. Enfin, je ne les connais pas par cœur, hein. Ça n'a pas duré très longtemps, c'est Napoléon Ier qui, en 1806, a remis en place le calendrier actuel. mais rien que ça fait sentir que le calendrier ne va pas de soi. Autre exemple pour le peuple juif, eh bien nous sommes en 5785, plus précisément le 7 qui se lève, 5785, compté depuis le chiffre de la création du monde. Autre exemple, pour les musulmans, eh bien nous sommes en 1446. Et l'année 1446 a commencé d'ailleurs le 7 juillet. Et le calcul est fait à partir de l'an 1, c'est le départ de Mahomet en 622 depuis la Mecque pour aller à Médine. Alors si vous faites le calcul dans vos têtes en ce moment, 1446 plus 622, ben ça ne fait pas 2025, mais les années n'ont pas 365 jours. Donc voilà, tout ça s'explique. Bref, tout ça pour dire que ce chiffre, cette date, ne va pas de soi. En fait, c'est au pape Grégoire XIII j'ai la date là, en 1582, que nous devons le calendrier actuel, qui s'appelle le calendrier grégorien, Grégoire XIII, grégorien. Et ce calendrier a remplacé le calendrier dit romain, qui avait été institué par Jules César. Mais en fait, bien avant Grégoire XIII, on comptait quand même les dates à partir de la naissance de Jésus-Christ. En fait, on fait ça depuis autour de 700. C'est un certain Bède le Vénérable qui était un moine. Alors, je ne sais pas s'il était en Grande-Bretagne ou sur la côte normande, ou les deux, qui a institué le comptage des années à partir de la naissance de Jésus. Et avant, donc, on comptait à partir de la fondation de Rome. Bref, donc depuis l'an 1000, on compte les dates à partir de la naissance, depuis l'an 700, et ça s'est institutionnalisé en l'an 1000 généralement, on compte à partir de la naissance de Jésus-Christ, et le calendrier qu'on a aujourd'hui, on le doit au pape Grégoire XIII. Voilà. Bref, cette double référence religieuse, liée à la date, l'influence d'un moine, l'influence d'un moine et d'un pape, la référence à Jésus-Christ, elle peut nous faire sentir au moins deux choses. Et la première, évidemment, on le sent tout de suite, c'est qu'elle témoigne évidemment de cette influence que la foi peut avoir sur la société et sur la culture humaine. Elle peut faire sentir combien ce sont des enjeux de foi qui peuvent même structurer l'histoire humaine, la façon de vivre des peuples. Et combien chaque tradition religieuse va traduire, va signaler, va faire valoir ce qui est essentiel pour elle. Et à partir de là, peut impacter le découpage de l'histoire, la façon de s'y situer. Même quand la sécularisation vient se superposer à ça. Et on peut faire beaucoup de reproches à la foi chrétienne, mais en général, on ne reproche pas à la foi chrétienne de nous avoir donné des fêtes et de pouvoir faire la fête à certains moments. Alors, si vous n'êtes pas spécifiquement chrétien, vous me direz, je crois à juste titre, que oui, c'est le résultat de l'histoire, et que ça ne décide en rien, ça ne préjuge en rien de l'importance de la foi chrétienne ou de sa véracité. Oui, c'est un héritage historique, maintenant. Quant à savoir si le christianisme est vrai ou pas, ça c'est autre chose. Je suis d'accord. Autrement dit, ce n'est pas parce que chaque jour en France ou dans la plupart des pays du monde, dès qu'on mentionne la date, on n'arrête pas de faire référence à Jésus-Christ, que Jésus-Christ nécessiterait toute notre attention. Donc oui, oui et non. Parce que c'est quand même frappant, en tout cas, je parle pour moi, c'est quand même frappant qu'aujourd'hui encore, on choisisse de baliser l'histoire humaine, de la définir, de la dater à partir de la naissance de Jésus-Christ. Surtout, c'est là que je voulais faire sentir, surtout quand on prend en compte quand même que ce Jésus est apparu et qu'il a vécu comme ce que certains le qualifient d'un juif marginal. C'est-à-dire un juif, finalement, parmi tant d'autres, Un juif qui n'a pas vécu si longtemps par rapport aux espérances de vie qu'on a parfois aujourd'hui. Il a vécu une trentaine d'années. Il est mort. Il a été crucifié parmi des milliers d'autres, sans gloire. Et au fond, il avait presque tout pour être oublié. De son vivant, si je peux employer ce langage, il s'était associé une poignée de followers, de disciples. Elle avait 12. Au niveau réseau social, c'est pas terrible. C'est mieux que 2, mais bon, 12. J'ai 12 followers. Et puis 12 qui, à sa mort, eh bien, sont partis. Ils rentraient chez eux, ils étaient découragés. Alors comment se fait-il que 1582 ans plus tard, dans une autre époque, dans un autre pays, comment se fait-il que 700 ans plus tard, que 1582 ans plus tard, dans une toute autre époque, dans un tout autre pays, ce soit à lui qu'on ait encore choisi de faire référence? Comment se fait-il historiquement, comment se fait-il psychologiquement que ses disciples qui étaient découragés aient rebroussé chemin tout à coup, et aient rebroussé chemin avec le cœur battant, avec les portés par une joie, et que leur témoignage ait gagné en quelques décennies, parce que c'est ce qui s'est passé, ait gagné en quelques décennies à peine tout le monde méditerranéen, tout le pourtour de la Méditerranée, à une époque où pour le coup, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de télévision. Comment se fait-il que ce témoignage ait rejoint au fil de l'histoire des millions et des millions d'hommes? Je suis en train de penser au chant qu'on a chanté là. Des milliers d'hommes. C'est quand j'ai vu tes mains. Des milliers d'hommes. Des millions d'hommes. Parce que c'est ça. Comment se fait-il qu'il ait rejoint tant et tant de personnes et dans tous les pays du monde? Comment se fait-il que ce juif marginal ait tant marqué le temps et l'histoire? Et qu'il ait marqué et qu'il marque encore des vies humaines, et des vies humaines qui se disent aujourd'hui encore bouleversées, transformées par une telle rencontre. Et je sais, beaucoup, la plupart d'entre nous, pourraient rendre témoignage d'une rencontre de cet ordre, et je pourrais le faire aussi pour ma part. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, comme tout au long de l'histoire humaine, depuis 2025 ans, alors pas tout à fait, parce qu'en fait Jésus, d'après le calendrier grégorien, est né en moins 4 avant Jésus-Christ. Donc bon. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, depuis 2025 ans ou depuis 2029 ans, des personnes témoignent dans leur histoire personnelle d'un avant et d'un après la rencontre avec Jésus-Christ? Donc je dis à ceux qui parmi nous seraient peut-être perplexe en recherche, que ce phénomène, même s'il c'est pas forcément convaincant, ce phénomène amène au moins une certaine considération, voire même une considération attentive certaine. C'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque nous rapportera au témoignage biblique que je n'ai pas mis en avant jusqu'ici. Et elle consiste à souligner cette correspondance entre, d'une part, un calendrier qui découpe l'histoire en un avant et un après Jésus-Christ, donc le calendrier, et puis d'autre part, pour ces premiers témoins de Jésus-Christ qui étaient des Juifs, ces auteurs du Nouveau Testament, cette conviction récurrente qu'avec la venue de Jésus-Christ, c'est l'histoire juive et l'histoire humaine qui a pris un virage déterminant. Donc deux choses qui se correspondent, d'un côté le calendrier et de l'autre côté un virage avec la venue de Jésus-Christ. Cette correspondance, enfin cette idée de virage, c'est en tout cas ce que croient les auteurs du Nouveau Testament, et ils nous le font sentir constamment, je crois, de deux façons au moins. La première, je vais reprendre des choses qu'on a évoquées en étude biblique, là. La première, c'est l'usage d'un vocabulaire qui met en avant le thème de la nouveauté. Je viens de parler du Nouveau Testament. Rien que ça, déjà, on parle d'Ancien et de Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, précisément pour décrire ce que Jésus-Christ est, ce qu'il a fait, parle constamment de nouveauté. Et emploie, reprend tout le vocabulaire de l'histoire juive, par exemple la création, Jean-Marc nous en a fait rappel tout à l'heure, l'Alliance et d'autres, et il les reprend pour dire qu'une réalité nouvelle s'est matérialisé en Jésus-Christ, ou bien est en cours de matérialisation en Jésus-Christ. Et donc, le Nouveau Testament va nous parler de nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, nouvelle création. De nouvelle alliance. Nous avons partagé la scène. C'est de cela qu'il a été question. D'une humanité nouvelle, de commandements nouveaux, d'une nouvelle Jérusalem, de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre. D'un nouveau David, d'un nouvel Adam, etc. Et c'est même, donc, nouveauté, et c'est même plus que ça, parce que parfois même, il est question de contraster ce qui venait avant et ce qui est véritable. Et Paul, dans la lettre aux Philippiens, dit par exemple, à propos d'Israël, que c'est nous. Il parle du peuple chrétien. C'est nous, le véritable Israël. Ce qui veut dire que l'autre n'était pas tout à fait. Pas encore tout autant. Donc, première chose qui marque le virage, le vocabulaire qui est employé. Et la deuxième chose, c'est que ce vocabulaire tient à une conviction centrale, c'est que pour ces premiers chrétiens, avec la venue de Jésus-Christ, eh bien, nous sommes passés d'une époque à une autre, nous sommes passés de l'avant Jésus-Christ au dernier temps, à la fin des temps. Et je voudrais lire avec vous deux textes bibliques qui le mettent en valeur. Cette conviction, elle apparaît dans le premier discours qui est prononcé le jour de la Pentecôte par l'apôtre Pierre, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 14 à 18. Et l'apôtre Pierre prend la parole parce qu'on est étonné d'un phénomène déroutant et donc s'adresse à une foule qui est rassemblée là et dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il dit la chose suivante. « Hommes de Judée, et vous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens que vous voyez, il parle des apôtres, ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ce n'est que la troisième heure du jour. Mais ce qui se passe maintenant devant vous, c'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël, je crois que c'est à peu près 700 ans avant, dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tous, vos fils et vos filles parleront en prophète, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Dans les derniers jours, c'est maintenant. C'est ce que vous voyez là. Nous sommes au premier siècle. Et un autre témoignage est donné dans la lettre aux Hébreux, qui est écrite plus tard. Après avoir, autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours d'aujourd'hui qui sont les derniers, par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Entendez-le, là je lis vite, mais il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même soutient tout par sa parole puissante. Donc le calendrier grégorien, comme le Nouveau Testament, reflète la même conviction, c'est qu'avec la venue de ce juif marginal, l'histoire a pris un tournant. Et je me propose de dire que cela peut nous rejoindre de deux façons. Je m'attarderai surtout sur la deuxième, qui me paraît plus importante que la première. La première, ben, je l'ai déjà dite, hein, il s'agit de tirer les conséquences de cette affirmation biblique, à savoir que les derniers temps ont commencé avec la résurrection de Jésus. Et je crois que juste entendre ça, rien que ça, permet d'interroger la façon dont on parle pas mal de ce sujet en milieu chrétien aujourd'hui, surtout pour ceux d'entre nous qui seraient portés sur des comparaisons entre la Bible et la géopolitique contemporaine, ou bien entre la Bible et le journal télévisé, et qui seront assez intéressés, voire parfois friands, de comparaisons apocalyptiques et alambiquées. Comme si ce n'était que maintenant, qu'à notre génération, qu'à notre époque, que nous serions dans les derniers temps. Ben, le Nouveau Testament, les chrétiens du Nouveau Testament se considéraient comme dans les derniers temps. Mais bon, vous m'avez largement déjà entendu sur ce sujet, surtout si vous avez fréquenté l'étude biblique des dernières années. Mais donc, j'en fais juste part et je ne développe pas plus pour ne pas lasser ceux qui étaient déjà présents. Et puis, on pourra continuer à discuter avec les autres après. C'était le premier plan. Le deuxième point, je crois, il a davantage d'enjeux aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes, je dirais, existentiels. De notre vie à nous, du sens, de la portée de notre vie à nous. On nous dit en Occident que Dieu est mort. C'est la crise de l'autorité. Les instits le savent, mais les instits et les autres représentants de l'autorité le savent. On nous dit en Occident qu'il n'y a plus rien de transcendant, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse. Rien qui nous dépasse, et que toutes ces images d'un au-delà, tout ça serait illusoire. Nous avons peut-être grandi sans référence religieuse, ou bien dans l'idée que bon, tout ça c'est bien mignon, c'est du folklore, on respecte le folklore, plus ou moins. Voir que tout ça, au plus, ça concerne les faibles, les gens qui ont besoin de croire. Bon, puis c'est bien pour les gens qui ont besoin de croire. Mais qu'en fait, on va peut-être pas le dire aux gens qui ont besoin de croire, mais tout ça, c'est du pipeau. Que c'est ridicule, que c'est intenable, etc. Donc peut-être on a grandi dans cette idée-là, ou bien on ne nous en a même pas parlé du tout. C'est en tout cas comme ça que j'ai été élevé, pour ma part. Je ne pense pas qu'on m'en ait parlé. Mes frères et sœurs, qui ont 15 ans de différence avec moi, ont vécu une éducation religieuse, mais quand c'était mon tour, 15 ans après, tout ça, c'était, on m'en parlait plus. Et on nous dira aujourd'hui que nous sommes en 2025, hein, après Jésus-Christ, on va insister beaucoup sur le « après ». Oui, c'est après, quoi. On a largement dépassé Jésus-Christ, c'est bon, quoi. Et à présent, dans ce jour présent que nous sommes invités à cueillir, carpe diem, cueille le jour présent, parce que ce jour présent, en fait, c'est la seule chose dont nous soyons sûrs. Demain, et pardonnez-moi d'être peut-être brut de décoffrage, ben demain nous serons crevés. Demain, tous, nous serons au cimetière. Enfin, demain ou après-demain, mais voilà ça. Donc, à présent, c'est à nous de jouer en attendant, parce qu'on n'a qu'aujourd'hui. Puisque nous dit-on aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de transcendance, il n'y a plus rien. L'histoire. Mais l'histoire, elle n'a pas de sens. Et puisque l'histoire n'a pas de sens, mais c'est à nous de remonter les manches et de donner un sens à notre histoire. Qui c'est qui va donner un sens à notre histoire, sinon nous ? Il n'y a pas d'autre chose. C'est à nous de donner sens à notre vie, nous dit-on. Nous sommes invités à inventer notre vie. Bon, ça c'est le discours, si tant est qu'il se fasse entendre. Mais bon, concrètement, ça, hein, qu'est-ce qu'on en fait le plus souvent ? Ben, concrètement, on va bosser, hein. On va consommer, puis on va consommer encore de la télé, de la nourriture, des vêtements, des voyages, des parfums. Bosser, consommer et dormir, métro, boulot, dodo. Et après, ben après, c'est le discours d'aujourd'hui quand il est tenu, parce que parfois on nous propose simplement un programme télévisuel et autres, et puis arrangez-vous avec ça, on ne fait même pas réfléchir. Alors je ne sais pas pour vous, mais quand j'entends ça, pour moi en tout cas, il y a quelque chose, je reste insatisfait. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui crie, ou qui murmure au moins, et qui parfois qui crie à davantage. Déjà, elle est lourde, de se donner cette tâche de se donner du sens à soi-même. C'est tellement arbitraire. Je prends ce qui me fait du fun, ce qui me fait plaisir, ça me donne quoi ? C'est lourd de ce... Comment je vais faire ? Avec quoi ? Je vais bricoler ? Donc c'est lourd et c'est plat, à mes yeux en tout cas. Et puis ce discours, quand on nous le tient, donc le plus souvent on ne le tient pas parce que on nous occupe avec du pain et des jeux, du pain et des liens à cliquer, et des pièges à clics sur Internet. Est-ce que vous avez su que... Ah, clic, je vais voir. Ce discours, il me semble qu'il sonne faux. Vivons-nous vraiment dans un monde, dans une histoire qui n'aurait de sens que le sens que je déciderais de lui donner et qui, au fond, n'aurait pas de sens ? Pas de sens au sens de pas de direction et pas de sens au sens de pas de signification. Je nais, je vis, je crève. Point. À la ligne, au suivant. Est-ce que c'est ça la vie ? Au travers de ces deux textes bibliques, je voudrais juste nous inviter à entendre combien le témoignage du Nouveau Testament nous dit autre chose, nous propose quelque chose d'autre. Parce que pour ces auteurs, nous l'entendons dans ces textes qui parlent d'avant Jésus-Christ et qui parlent des derniers temps. Et puis c'est un avant Jésus-Christ qui orientait vers Jésus-Christ, donc on attendait quelque chose à venir, et le Nouveau Testament fait référence à ce qui précède. Pour les auteurs du Nouveau Testament, pour ceux qui ont rencontré Jésus, l'histoire a bel et bien une direction. Une direction qui allait d'un temps de la promesse, l'Ancien Testament, à un temps de l'accomplissement, le Nouveau Testament. Une direction, donc on a une direction orientée qui va des temps anciens vers les temps de la fin. Il y a une flèche narrative, comme les flèches qui nous indiquent la direction dans la rue. Ou pour aller à l'île d'Abo, il y a le panneau qui nous donne la direction. C'est vers là-bas. Et ça a un sens. Il y a une direction à suivre. Et avec, en Jésus-Christ, un moment qui fait le pivot. Et ça nous paraît presque évident, peut-être, quand on est chrétien. Mais je voudrais vous rendre attentif au fait que dans le monde grec de l'époque, ce n'est pas du tout le cas. On est, pour une large partie du monde grec, on est dans un temps cyclique. Ça tourne en boucle. Cet instant que nous vivons maintenant, pour beaucoup de Grecs, on l'a vécu des milliards et des milliards de fois, et on le revivra encore des milliards et des milliards de fois. Mais ça n'a pas de sens. Et en tout cas, on n'est pas dans le non-sens de nos contemporains. Dans ce que le philosophe Pascal appelait le divertissement, la consommation, consommer, en attendant de crever. Donc l'histoire a bien une direction. Et puis d'autre part, Ce que ces textes nous font entendre, c'est que l'histoire, elle est chargée de sens, qu'elle est chargée de signification en Jésus-Christ. Il y a eu un avant, il y a un avant et un après, Jésus-Christ. Et cette densité de sens, elle apparaît dans ce texte de la lettre aux Hébreux, notamment. Ça m'a frappé en le lisant. Un fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Ce fils qui est le rayonnement de sa gloire, l'expression de sa réalité même. Celui qui, par le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout, nos petites vies, par sa parole puissante. C'est en tout cas ce qu'affirme la foi chrétienne. Elle renvoie à quelqu'un qui tient le calendrier dans ses mains, qui tient notre calendrier, qui tient notre histoire entre ses mains. Alors oui, nous sommes en 2025, après Jésus-Christ, c'est vrai. Mais en 2025, après Jésus-Christ, il reste encore cette référence à Jésus-Christ. Et il reste encore, en tout cas c'est ce que je crois, qu'il y a toute une épaisseur de sens à s'intéresser à quelqu'un qui soutient tout par sa parole puissante, à s'attacher à lui et à lui faire confiance. Surtout quand on est devant un certain nihilisme de notre époque, quand on a une vie bousculée, difficile. Mais même quand on n'a pas ça. Je lisais cette semaine le témoignage d'une historienne australienne qui raconte que pour elle, tout allait bien, elle avait tout dans sa vie. Elle avait un super diplôme, elle était poste d'enseignement, je crois, à Oxford, je ne sais pas. Et puis elle était aux États-Unis. Heureuse dans sa vie, elle avait tout, tout ce dont elle rêvait. Elle rentre un jour dans une église aux États-Unis, par curiosité, et là on partageait le pain et le vin. Et je ne sais pas pourquoi, mais pour elle en tout cas, elle mesure justement que tout son credo, toute cette histoire qui n'a pas de sens, tout ça, ça ne lui donnait rien. Et que là, au travers simplement de ces quelques mots, ceci est mon corps livré pour vous, tout à coup, il y a une présence qui se fait sentir et une présence qu'elle sait au fond d'elle-même, qu'elle désire et qu'elle appelle. Que le Seigneur nous porte, nous accompagne en cette année.
Eh bien, il me reste à vous souhaiter un bon dimanche. En ce premier